Chapitre 5. Roger avait épousé Henriette, fille de Georges Bénardy, propriétaire des ateliers de la rue Saint-Maur. Son mariage le fit l'associé de Bénardy, alors malade, et la mort du père d'Henriette, qui arriva quelque temps après, le rendit seul maître de la maison. Ce n'était pas la fortune, mais c'était peut-être le moyen d'y parvenir, mais c'était à coup sûr un brevet de probité que Bénardy laissait en mourant à son gendre. Roger était jeune et fort, il avait confiance en lui-même. Au lieu de vivoter ainsi que lui avait recommandé son beau-père, il agrandit au contraire ses ateliers, rechercha des débouchés nouveaux et accepta des commandes importantes. Comme il ne possédait pas l'outillage nécessaire, il accepta d'un ami de son père, Célestin Vaubernon, ancien ouvrier comme lui, qui avait fait fortune et se trouvait à la tête d'une importante maison de soierie de Lyon, il accepta, disons-nous, un prêt de 130 000 francs environ, qui lui servit à augmenter sa production et à donner une vie nouvelle à la fabrique. Roger Larocque, par son mariage, avait formé d'excellentes relations dans la haute bourgeoisie parisienne. Roger s'était marié en 1865 et Henriette était devenue enceinte presque aussitôt son mariage. Suzanne vint au monde. En 1869, seconde grossesse, mais un accident de voiture à Dieppe dans une promenade à Pourville mit ses jours en danger et la fit accoucher avant terme. L'enfant mourut. Henriette resta longtemps souffrante, plus d'un an. Dans un des salons qu'il fréquentait, Roger avait rencontré un soir de bal une femme dont la beauté l'avait fortement troublé. Madame Julia de Noirville, femme de l'avocat déjà célèbre, était fille d'un père espagnol et d'une arabe, et avait très accusé le cachet des deux races. Une sorte de charme mauvais mais réel se dégageait de cette femme, de son sourire sérieux comme en dedans, de ses yeux broublants et fouilleurs dont le regard était presque gênant par trop de fixité. Quelle fatalité poussa l'un vers l'autre Roger et Julia. L'amour, non, Roger aimait sa femme. S'il avait eu le temps de raisonner le sentiment qu'il entraînait vers Julia, il se fût éloigné d'elle, mais il fut emporté d'un coup de passion, comme une feuille d'automne que balaye la rafale, et lorsqu'il retomba, il rougit d'avoir été faible et d'avoir cédé si facilement. Julia aima Roger avec passion, s'attachant à lui d'autant plus que l'instinct merveilleux de la femme criait bien fort à son cœur que Roger n'avait cédé qu'à une ivresse et qu'elle n'était pas aimée. Ce fut la seule faute de la vie de Larocque. Il devait l'expier cruellement. Lucien de Noirville, l'avocat, avait épousé Julia dans un voyage fait en Algérie. Julia donna deux enfants, deux garçons, à Lucien, mais quand il n'eut plus pour se distraire les soins et les inquiétudes de la maternité, elle se lança avec une sorte d'emportement dans tous les caprices et les plus ruineuses fantaisies de la vie mondaine. Noirville n'était pas riche. Très estimé au palais, promettant de faire une carrière brillante, il gagnait beaucoup d'argent à force de travail, mais il n'avait point de fortune personnelle et les dépenses désordonnées de sa femme mirent bientôt la gêne dans le ménage. Les économies de l'avocat et le mince patrimoine qui lui avait servi à vivre quand il était étudiant n'existaient plus qu'à l'état de souvenir. Tout cela s'effondra vite dans les petites mains fluettes aux ongles roses de la jeune femme et passa dans la caisse des bijoutiers, des couturières, des modistes et des tailleurs pour dames. Si Lucien avait été seul, il ne se fût pas plaint, peut-être, il eût souffert en silence. Il eût redoublé d'ardeur au travail, car il adorait sa femme. Il l'adorait comme au premier jour où il l'avait rencontrée. Mais il avait ses deux fils, Raymond et Pierre. Il songeait à eux, à leur avenir, et il avait peur. Un soir d'hiver, il revenait d'un bal chez le président de la cour, un ami de Noirville. Ils étaient emmitouflés dans leur fourrure, et à côté dans les coins d'un élégant coupé attelé de deux purs arabes. Pendant le trajet, Julien et Julia ne se parlèrent pas. Au bal, Julia avait eu comme toujours son succès de beauté. Elle était vraiment radieuse et charmeuse au possible. Lucien lui-même la trouva si belle, sous la ruisselante lumière des lustres, cette femme qui était la sienne, qu'il oublia un moment les anciennes querelles et les appréhensions de l'avenir et resta ébloui, fasciné et troublé comme au premier jour. Il ne songeait ni au danger, ni à jouer, ni à causer, lui, si brillant causeur, et du fond d'un salon, il se contentait d'admirer, il emplissait ses yeux et son cœur d'amour. Quelqu'un lui avait alors pris le bras, monsieur de Ferrand, son vieil ami, qui donnait cette fête. Le vieillard l'avait doucement entraîné. « Lucien, avait-il dit, j'ai été pendant toute sa vie le compagnon de ton père. Toi, je t'ai suivi depuis ta naissance, pendant tes études et depuis ton mariage, comme si tu avais été mon fils, avec autant d'affection et de sollicitude. Tu es donc bien sûr que je suis ton ami, n'est-ce pas ?»« Certes, monsieur de Ferrand, dit l'avocat, surpris par ce préambule, mais pourquoi ?» « Je sais aussi quelle est ta fortune, quelles sont tes ressources plutôt. Eh bien, mon enfant, veux-tu me pardonner ce que je vais te demander ?»« Je vous pardonne, dit Lucien en souriant. » Monsieur de Ferrand baissa la voix. « Regarde ta femme, non pas sa toilette, mais ses diamants. Lucien, ne te fâche pas, je te parle comme l'eût fait ton père. Tu vis sur le pied de 200 000 francs par an. » Tu n'en gagnes pas plus de 60. Comment fais-tu ? Lucien avait reçu un choc violent au cœur. Cette parole répondait si bien à ses angoisses secrètes qu'on eût dit que c'était la voix de ses souffrances intimes qui venait de s'élever. Il courba le front et dit : Oh, je l'aime tant. Le vieux magistrat répondit : Prends garde. Et voilà pourquoi, dans le coupé qui le reconduisait rue de Rome où il habitait, Lucien se taisait, remué par des pressentiments de malheur. Madame de Noirville, de son côté, devinait un orage. Elle se pelotonnait dans un coin et fermait les yeux pour faire croire qu'elle dormait. Ce fut seulement lorsqu'il fut rentré que Lucien se décida à parler. « Julia, le moment est assez mal choisi pour te parler sévèrement. Tu reviens du bal et tu es encore dans l'enivrement de ton succès. Cependant, mieux vaut tout de suite. Il y a longtemps que je désire avoir une explication que je t'ai fait prévoir, mais que tu mets sous tes soins à fuir. J'espère que tu ne m'obligeras plus à revenir sur un aussi pénible sujet. » Elle le regarda avec étonnement, mais il le laissa parler sans l'interrompre. Ce n'est pas la première fois que je te fais ces observations, ma chère Julia. Je t'ai déjà mise en garde contre toi-même. Nous ne sommes pas riches et depuis notre mariage, tes dépenses pour ta toilette seule ont dépassé chaque année le budget général de notre ménage. Il est donc urgent, acheva Lucien d'un ton ferme, que nous changions notre genre de vie. « Désormais, ma chère enfant, nous vivrons d'une existence plus simple. Je ne saurais trop vivement t'engager à diminuer tes dépenses, car vois à quelle désolante perspective nous courons, Julia, à une séparation qui nous fera vivre chacun de notre côté, qui causera un scandale énorme dans le monde et qui brisera ma vie, car je t'aime. » « Mais si vous m'aimez, dit-elle, pâlissant sous cette menace, proféré timidement, et pourtant que Lucien était capable d'exécuter, « Si vous m'aimez, comment pouvez-vous penser à un aussi triste dénouement ?»« Je t'aime, dit-il, se levant pour prendre congé d'elle, je t'aime, mais je n'oublie pas que j'ai deux fils. » Et il appuya ses lèvres sur le bras nu de sa femme. « Souviens-toi, dit-il en la quittant, que je suis absolument résolu à ne plus te pardonner tes dépenses, et que, si douloureuse que soit une séparation, je n'hésiterai pas à la demander aux lois dans l'intérêt de Raymond et de Pierre. Si Julia avait aimé son mari autant que celui-ci aimait sa femme, l'effort qu'il lui demandait ne lui eût point semblé trop pénible. L'amour remplace tout chez les femmes et leur tient lieu de luxe, de triomphe et de coquetterie. Malheureusement, elle n'aimait pas. Et pour oublier son besoin d'aimer, elle s'était jetée, sans réflexion, au milieu de la vie à outrance, essayant de dompter à force de fatigue les révoltes qu'elle ressentait parfois contre la vie de son cœur. L'explication de Lucien tombait mal. Elle avait fait, depuis un an, plus de 100 000 francs de dettes. Pendant 6 mois, ses créanciers l'avaient laissée tranquille car elle avait toujours payé. Mais depuis quelque temps, ils la pressaient, la fatiguaient de leurs réclamations incessantes. Elle se vit tout d'un coup, après cet entretien, dans une impasse, cherchant partout, sans succès, une porte de salut. D'une part, les créanciers qui perdaient patience, d'autre part, la colère de Lucien, la menace du scandale. Elle s'y fût résignée peut-être si elle avait été seule, mais si légère et coquette qu'elle fût, elle adorait ses enfants, et parfois, en un soudain caprice, en un brusque revirement d'amour maternel, après les avoir délaissés pendant quelque temps, elle revenait à eux tout à coup, et vivant de leur vie, s'amusant de leur jeu, elle ne les quittait plus, pas même une heure, durant de longs jours. Ce fut alors qu'elle était ainsi tiraillée, pleine d'angoisse, qu'elle rencontra la Roque. Elle oublia tout pour cet homme et l'aima avec une telle fougue que rien ne semblait plus exister des choses autour d'elle qui étaient sa vie ordinaire. Ni Lucien, ni ses enfants, ni le monde, ni les toilettes, ni les créanciers. La Roque ne connut Lucien que de vue et l'aperçut 2 ou 3 fois seulement dans des salons où les relations communes les réunissaient. Une simple présentation mondaine leur avait appris à tous deux leur nom. Quelques jours après la conversation que nous avons rapportée, Roger reçut rue Saint-Maur un petit mot de Julia qui demandait à Roger un rendez-vous pressant dans la journée vers 2 heures au magasin du Louvre. Il trouva la jeune femme arrivée avant lui, l'attendant avec anxiété. Dans les grands magasins de Paris, les rendez-vous sont faciles. On n'est jamais si bien et si complètement isolé qu'au milieu de la foule. Du moins, il le croyait. Tout ce qu'ils dirent, un homme l'entendit, qui s'était dérobé au premier mot pour mieux écouter. C'était un garçon du Louvre, au visage dur, à la taille athlétique. Roger n'eut pas besoin d'un long examen pour deviner, malgré le sourire dont Julia l'accueillit, avec un furtif serrement de main, qu'elle apportait une mauvaise nouvelle. En effet, son teint ambré était presque olivâtre. Ses traits étaient fatigués, quelque chose voilait l'éclat de ses yeux de flamme. Hardiment, sans hésiter, mais par petites phrases courtes, hachées, qui seul trahissait son émotion. « Roger, si vous ne me sauvez pas, je suis perdu. »« Mais qu'y a-t-il ?» Elle raconta combien elle était endettée et comment son mari l'avait menacée d'un scandale. « Ainsi, dit-il rassuré, car il s'était imaginé un malheur bien plus grand, ainsi vous devez 100 000 francs. »« Oui. » fit-elle sans parler d'un signe de tête. « Eh bien, je vous les donnerai. Seulement, c'est une grosse, très grosse somme pour moi. Il me faut 15 jours plus, peut-être, pour la réunir. Vos créanciers attendront-ils jusque-là ? Oh, je le crois, lorsqu'ils sont surtout que je les paierai. Bien, comptez donc sur moi, Julia. Oh, j'ai vous me sauver, dit-elle. Ayant des larmes plein les yeux et faisant des efforts pour ne pas pleurer parce qu'elle craignait d'être vue. « Oh, moi, puis-je être sûr que ces 100 000 francs ne nuiront en rien à la prospérité de votre maison ? Autrement, je n'accepterai pas. Tranquillisez-vous, Julia. Vous me le jurez, je vous le jure. Du reste, je n'accepte mon ami qu'à titre de prêt. Je serai plus sage désormais. Puisque j'ai votre amour, qu'ai-je besoin du monde? Votre amour, n'est-ce pas assez pour remplir toute ma vie? Elle sortit la première des magasins et envoya un petit garçon lui chercher un fiacre sur la place du Palais-Royal. Dans l'ombre de la voiture, du bout de sa main gantée, elle jeta un baiser à la roque et disparut. Mais jusqu'à la rue de Rome, un fiacre suivit le sien. Et quand elle fut remontée chez elle, un homme, celui-là qui dans les magasins avait surpris sa confidence, entrait chez le concierge et demandait son nom. Et le concierge, sans défiance, disait « C'est madame de Noirville, la femme de l'avocat. » 15 jours après, la roque apportait à Julia les 100 000 francs promis. La jeune femme était sauvée. De graves événements se passaient en France à cette époque. Le mois néfaste de juillet 1870 avait commencé, et le 15, le gouvernement impérial déclarait la guerre à la Prusse. Au camp de Châlons, un mois après la déclaration de guerre, deux hommes se trouvaient en présence, c'étaient Laroque et Noirville, l'amant et le mari. Dans le monde, ils se saluaient avec une stricte politesse, mais sans que rien ne les poussât l'un vers l'autre. Quand Roger aperçut l'avocat, il fut si ému qu'il recula d'instinct. Mais Lucien le reconnaissait, et joyeusement, les mains tendues, « Monsieur Laroque, engagé comme moi, eh bien, nous allons faire campagne ensemble. » Et il arriva bientôt, fatalement, qu'ils se prirent l'un pour l'autre d'une affection profonde, presque impérieuse, une de ces amitiés nées dans des époques tragiques, en plein bouleversement, et qui sont les meilleures, les plus vives, les plus durables. Lucien s'y était abandonné avec joie. Pouvait-il se douter que cet homme qu'il voyait si droit, si brave, l'avait trompé, avait porté le déshonneur et la honte dans sa maison? Roger avait combattu plus longtemps. Pendant quelque temps encore, il se tint sur sa réserve. Et puis ce fut fini, l'amitié était née, plus ardente encore peut-être chez lui que chez Lucien, parce qu'elle était faite de sentiments divers où le remords jouait son rôle. Coupable envers Noirville, il se disait « S'il apprend jamais la vérité, que pensera-t-il de moi? Que fera-t-il? Comme il me méprisera? Aura-t-il assez de dégoût ?» Et il souhaitait que les hasards de la guerre lui procurassent l'occasion de se dévouer pour Lucien. Mais le hasard semblait être inflexible pour lui et favorisait toujours Lucien, car dans une reconnaissance faite à quelques kilomètres des lignes françaises, Roger eut le crâne éraflé par une balle qui l'étourdit et le renversa. Lucien ne voulut pas l'abandonner et revint sur ses pas. Il enleva Roger, le coucha sur sa selle, remonta, puis enfonçant les éperons dans les flancs de son cheval, il repartit à fond de train. « Je vous dois la vie, Lucien, dit Roger, les sourcils froncés et tout tremblants. Dieu m'est témoin que je suis prêt à vous rendre le même service et à sacrifier ma vie pour sauver la vôtre. » L'avocat sourit et lui tendit la main. « Je vous crois, Roger. Oh, ce que j'ai fait pour vous, vous l'auriez fait et le feriez pour moi. N'en parlons plus, je vous en prie. À la guerre, c'est chose si commune. » Roger n'en parla plus, en effet. Il était de plus en plus triste. Mais son amitié pour Noirville grandissait encore et Lucien, de son côté, depuis cette aventure, aimait Roger davantage. Le 1er septembre arriva. La bataille autour de Sedan commença dès le lever du jour. La cavalerie est prête à se dévouer comme elle l'a fait à Richthofen et son abnégation est d'autant plus sublime qu'elle sait que son dévouement restera inutile. Roger et Lucien font partie du 6e chasseur qui va se mêler à la charge. Ils sont l'un près de l'autre dans leur rang. Roger, dit Lucien, nous allons mourir. Oh, je crois aussi, dit la Roque d'une voix grave. Me mourrai sans regret parce que j'aurais fait mon devoir, mais j'ai une femme, j'ai deux fils. Si je meurs et si tu survis, toi, Roger, veux-tu me promettre de me remplacer auprès d'eux? Ma femme, hélas, est légère et coquette. J'aurais peur pour mes enfants, qu'elle négligerait peut-être. Tu leur serviras de père, alors je mourrai tranquille et joyeux. Très pâle, Roger répond. Oui, je te le promets, mais moi aussi j'ai une femme et une fille. Si je meurs et si tu survis, les consoleras-tu, les protégeras-tu? Comme si j'étais ton frère. L'artillerie française appuie le mouvement qui commence. Les premières batteries sont pulvérisées, d'autres les remplacent. Hussards, chasseurs, chasseurs d'Afrique s'ébranlent le sabre au poing penché sur leurs chevaux. C'est un ouragan furieux qui, entre le bois de la Garenne et le village de Flouing, va se heurter à 17 bataillons allemands. Les tirailleurs sont dispersés, hachés, mais les bataillons résistent. Une pluie de fer s'abat sur les cavaliers français. Des rangs s'écroulent tout entiers, faisant dans les escadrons de grands trous où se débattent pêle-mêle hommes et chevaux dans un monstrueux charnier. On recule. Les escadrons vont se reformer derrière l'infanterie. Roger et Lucien sont sains et saufs. Le 6e chasseur s'ébranle de nouveau avec ses escadrons décimés, recule encore et pour la 3e fois s'élance, mais cette fois ne ramène plus que les débris broyés par la mitraille. Roger Larocque seul revint. Lucien est resté là-bas, près de la Garenne. Roger a encore devant les yeux une rouge vision, quelque chose d'atroce, d'innommable, d'horrible. Une balle a traversé le cheval de Noirville. Celui-ci s'est dégagé. Des chevaux errent en liberté, privés de cavaliers. Il court à l'un d'eux, il va l'atteindre. Déjà, il étend la main. Un obus éclate près de lui. Et Roger, qui venait à son aide, ne voit plus à la place de son ami que quelque chose d'épouvantable et d'informe, un tronçon qui s'abat pendant que deux bras se tordent. L'obus avait coupé les deux jambes de Julien. Entraîné par les flots d'une mer de fuyards, cavaliers, fantassins, artilleurs, qui tous rétrogradaient vers Sedan, Roger avait été obligé de quitter le champ de bataille. Du reste, il était à demi fou de douleur et d'horreur, parce qu'il avait toujours devant les yeux le spectacle de Lucien coupé en deux, fou de rage aussi devant ce nouveau désastre. Napoléon avait décidé de capituler. Dans l'intérieur de la ville, un effroyable et indescriptible désordre. La nuit descendait lentement, une nuit calme qui semblait vouloir cacher de son ombre protectrice le carnage de la journée et ensevelir vainqueurs et vaincus, étendus côte à côte sous le même voile de la mort, sinistre égalitaire. « Je ne veux pas laisser Lucien, » se disait Roger. « Je le retrouverai. Je l'enterrerai moi-même là où il est tombé. » Et je mettrai une croix sur sa tombe. » Il sortit de la ville et, quoique brisé de fatigue, s'appuyant sur un bâton, il prit le chemin du champ de bataille, là où Lucien était mort. Une heure passa. À la fin, Roger trouva. Il avait bien vu. Lucien avait les deux jambes emportées et un éclat du même obus lui avait éraflé la poitrine. Roger se mit à genoux près de lui et l'embrassa sur le front. « Pardon, Lucien, dit-il à mi-voix. Pardon, ami. » Il plaça la main sur le cœur du pauvre garçon. Ce cœur battait encore, malgré l'effroyable blessure et le sang perdu. Alors Roger fut pris d'une espérance folle, s'il était possible de le sauver. Il entendit des voix, une centaine de mètres, des voix françaises. Il appela, on accourut, c'étaient des brancardiers. Quand il leur montra Lucien, ils se mirent à rire. Oh, « oh, son compte est bon, un peu de patience. Mais il n'est pas mort. Oh, il n'en vaut guère mieux. Nous avons d'autres blessés qu'on peut sauver, tandis que celui-là est perdu. » Alors Roger pria, supplia, finit par les convaincre. Et il plaça sur le brancard le corps de Noirville. À Sedan, les premiers chirurgiens auxquels il s'adressa refusèrent de s'occuper du mutilé. À quoi bon ? Il n'avait plus qu'une minute à vivre. Désespéré, il recourut à un médecin civil qu'on lui indiqua, qui n'exerçait plus depuis bien longtemps, le docteur Champeau. Le docteur prit Noirville chez lui. « Bon, je ferai ce qui dépendra de moi, dit-il à Roger, mais n'espérez rien. Votre ami est un homme mort. » Roger le remercia avec effusion. Il lui donna le nom de Lucien, son adresse à Paris, sa propre adresse à lui, rue Saint-Maur. « Je suis prisonnier, dit-il, et demain, après-demain ou plus tard, je vais partir pour l'Allemagne, je vous écrirai. » Il embrassa Lucien sur le front et alla rejoindre dans la presqu'île d'Iges les débris du 6e chasseur. Chapitre 7. Emmené à Koblenz, il se sauva après 2 mois de captivité. Il avait vainement écrit au docteur Champeau et n'en avait pas reçu de réponse. Il essaya de rentrer à Paris pour y retrouver sa femme et sa fille, dont il était sans nouvelles, mais n'y réussit pas. Alors il rejoignit l'armée qui se battait sur la Loire. Fait une seconde fois prisonnier à Coulmiers, il s'échappa de nouveau avant d'être dirigé sur le Rhin. Après la Commune, il revint rue Saint-Maur. Suzanne et Henriette avaient souffert, mais n'avaient pas été malades. Elles étaient en deuil parce qu'elles le croyaient mort. Il télégraphia aussitôt à Sedan au docteur Champeau. Celui-ci répondit « Noirville hors de danger, toujours chez moi. Je l'accompagnerai à Paris dans quelques jours. » 15 jours après, Roger recevait un mot par la poste. « Cher ami, je n'espérais plus te revoir. Je suis rue de Rome, mais trop faible encore pour m'aventurer hors de chez moi. « Viens, j'ai tant envie de te serrer dans mes bras. » Aller chez Lucien, c'était revoir Julia. Se retrouver entre elle et le pauvre homme, cet homme dont il était devenu l'ami, qu'il aimait comme s'il avait été de sa famille, et qui maintenant, cloué à son fauteuil éternellement, était 100 fois digne de respect et de pitié. Mais que faire ? S'il n'y allait pas, quelle excuse invoquer ? Non, dit-il, je verrai Julia. J'aurai avec elle une explication. Elle comprendra que tout est fini, qu'il ne peut plus y avoir entre nous-mêmes un sourire, même un serrement de main, même un signe. Que ce serait horrible, criminel devant lui, devant ce pauvre sans défense. Non, mille fois non. Et il se présenta rue de Rome chez l'avocat. Noirville était dans sa chambre. Un domestique introduisit Roger au salon. Aussitôt entra Julia. Elle courut à Roger, les mains tendues. Presque une année s'était écoulée depuis leur dernière entrevue. Elle semblait encore embellie. Son regard avait plus de flamme, paraissait plus profond. Sa beauté était devenue plus impérieuse, plus orgueilleuse. Elle aimait Roger, et quelque chose en elle s'attendrissait en le voyant. Il s'inclina respectueusement, froidement, sans prendre ses mains. « Roger, Roger, dit-elle, comme j'ai pensé à vous, comme j'ai souffert !» Elle s'arrêta en voyant je ne sais quelle inexprimable horreur sur ce visage mobile qui reflétait si bien toutes les impressions de l'âme. Alors à voix basse, il dit « Julia, oublions le passé et que Dieu nous le pardonne. Je suis devenu l'ami de Lucien, comprenez-vous ?» Et pendant qu'elle reculait, comprimant son cœur où elle venait de recevoir un coup mortel, il pénétra chez Lucien de Noirville. L'avocat était dans un fauteuil, pâle, amaigri, méconnaissable, presque sans souffle. Il avait laissé pousser sa barbe. Deux jambes de bois étaient adaptées à ses cuisses, un peu au-dessus de ses genoux. Quand il vit Roger, son visage s'éclaira, ses yeux s'emplirent de larmes. « Roger, dit-il, mon ami, mon frère, mon frère !» Il essaya de se lever, mais n'y réussit pas. Roger, du reste, l'en empêchait. Il s'était élancé vers lui et ils s'embrassèrent. « Dans quel état tu me retrouves, mon pauvre ami ?» dit Lucien, montrant ses jambes. Le docteur Champeau m'a tout raconté. Oh, sans toi, je serais mort là-bas. Ah, qu'il eût mieux valu me laisser mourir. Et quel mauvais service tu m'as rendu. Il soupira, puis prenant les mains de la roque. Non, dit-il, je suis un ingrat et un égoïste. Moi, mort, c'était Julia et mes enfants sans fortune, sans pain. Vivant, c'est encore l'aisance, car si je ne plaide plus, du moins, j'aurai un cabinet de consultation. Tu as donc bien fait de me sauver, Roger, et pour ma femme et mes fils, je te remercie. Comme il était fatigué, si faible que maintenant on n'entendait presque plus sa voix, Roger voulut se retirer. Alors Lucien fit prier sa femme de venir. Elle entra. « Voici Roger Larocque, dit-il, que nous avions rencontré dans le monde avant la guerre. Je lui ai sauvé la vie. Il m'a payé largement sa dette. Je l'aime comme un frère. Nos familles, bientôt, je l'espère, n'en feront plus qu'une. » Elle s'inclina sans répondre, et quand Roger sortit, elle l'accompagna. Au moment où il la saluait avec la même froideur et se disposait à se retirer, elle le retint par le bras. Sa main semblait de fer. D'étranges lueurs traversaient ses yeux noirs. « Ainsi, vous ne dites pas un mot. » Il désigna silencieusement la chambre du mutilé et après un moment, « Mais par pitié !» « Si ce n'est par amour pour lui, taisez-vous » murmura-t-il. Mais la jeune femme devenait folle, sa colère grandissait. « C'est fini entre nous, bien fini, à jamais ?» Roger eut un geste égaré, ses yeux étaient troublés, il souffrait. « Non, si je savais, dit-il, quelques moyens d'effacer même au plus des cruels sacrifices les mauvais souvenirs qui existent entre nous, je l'emploierai à l'instant, sans hésiter, avec bonheur, dût-ce j'y perdre ou la fortune ou la vie. Roger, Roger, mais il continuait encore plus bas avec une tristesse profonde. Votre devoir est tout tracé, Julia. Lucien mutilé, isolé, a besoin de tout votre dévouement. Ainsi, plus tard, votre faute vous semblera moins lourde. Pour moi, je ne sais comment j'effacerai la mienne et j'ai bien peur d'emporter le poids toute ma vie. Roger, ne partez pas ainsi sans un mot d'amour. Adieu, Julia. Roger, c'est indigne, c'est odieux. Ainsi, bien vrai.
Oui.
Eh bien, écoutez-moi, dit-elle d'une voix précipitée qu'entrecoupait une sourde colère. Écoutez-moi, Roger. Moi, je vous aime. Que voulez-vous, ce n'est pas ma faute. C'est plutôt mon excuse. Mais mon amour peut se changer en haine. Je suis d'une race qu'il faut redouter extrêmement tout. Je ne vous pardonnerai pas. Et si quelque jour il vous arrive malheur, souvenez-vous que peut-être je n'y serai pas étrangère. La guerre avait été fatale à la fortune de Roger. La confiance avait disparu, et malgré la reprise des affaires qui suivit le désastre, le coup qui avait atteint la maison Larocque était rude, et il fallait toute l'intelligence, la prudence, l'énergie de Roger pour se maintenir à flot. Les difficultés que traversait la fabrique de la rue Saint-Maur étaient connues à Paris. On sentait qu'une fatalité, un hasard, moins que cela, un simple accident, pouvait perdre cette vieille et honorable maison. Cet accident, ce fut la mort subite de Célestin Vaubernon, le manufacturier lyonnais, créancier de Roger. Vaubernon n'eut pas le temps de faire un testament, et sa fortune revint purement et simplement, sans codicille, ni charge, ni condition d'aucune sorte, à son unique neveu Larouette, lequel fut mis en possession immédiate de l'héritage. Quand les affaires de cette succession furent réglées, un jour, dans l'après-midi, un jeune homme de 25 ans environ, très brun, grand, large d'épaule, se présenta chez l'avocat et demanda à parler à Julia. C'était un boursier auquel Noirville avait eu affaire. Julia le connaissait de vue. Elle l'avait rencontré plusieurs fois dans le cabinet de son mari. Et un jour, qu'il attendait au salon, le dos tourné, que Noirville reçut, elle eut une surprise singulière. Elle l'avait pris pour Larocque et s'était avancée vers lui en disant « Roger, un mot !» Il s'était retourné, elle avait jeté un cri. C'était Luversan. Même port de tête, même taille et même carrure, même barbe brune et broussailleuse. Mais là se terminait la ressemblance. Les yeux étaient durs, la cornée marquée de fibrilles rouges. Le nez était plus large, aux narines mobiles, le front était plus bas, les sourcils plus touffus. Qu'était-ce que cet homme ? Rusé, intelligent, sans scrupules, il avait débuté par être employé dans des maisons de commerce. On l'avait vu au Louvre, où il était resté un an. Pendant la guerre, il avait disparu. Il flotta d'une armée à l'autre, espionnant pour le compte des Français et des Allemands, ayant un but qui était de s'enrichir pour se lancer ensuite, la paix revenue. Durant les jours qui précédèrent la bataille de Coulmiers, Larocque, alors maréchal des logis, suivait une route de la forêt de Marchenoir, envoyé en reconnaissance avec une trentaine de cavaliers commandés par un lieutenant. Un paysan accourut l'avertir qu'une grande garde d'infanterie prussienne, composée d'une vingtaine d'hommes, venait de s'installer à 2 kilomètres de là, à la ferme des Masures. Le lieutenant fit un signe à Roger, qui se rangea auprès de l'homme, et lui montrant son revolver tout armé, « Si tu nous trompes, je te brûle la cervelle !» Le paysan, un garçon de haute stature, très brun, ne répondit pas, mais le regarda avec une insistance particulière, comme s'il l'avait déjà vu. Ils s'approchèrent du poste et l'entourèrent. Après avoir fait mine de résister, les Prussiens mirent bas les armes et les Français étaient sans défiance, quand des caves aux greniers, des granges, des écuries, des redomises, sortirent 200 fusils à aiguilles et 200 casques de cuir. Ils étaient tombés dans un piège. Roger, furieux, chercha partout le paysan. Il avait disparu. Heureusement, il s'évadait le soir même en traversant Marche Noire. 3 jours après que l'armée allemande battue eut abandonné Orléans, Roger vit passer sur la place du Martroi un paysan qu'il crut reconnaître pour celui-là même qui les avait trahis. Il le suivit. C'était bien lui, en effet. Roger l'arrêta, aidé par des camarades. 2 heures après, l'homme était jugé et condamné à être passé par les armes. Il avait déclaré qu'il s'appelait Mathias Zuberi, né à Constantinople, mais sujet italien de par son père, citoyen de Livourne. Se levanta, voit qu'il était venu au camp français pour espionner. L'exécution fut remise au lendemain dès l'aube. Le matin, quand le peloton se présenta à la prison, on chercha vainement le condamné. Il avait descellé un barreau, s'était jeté dans la cour, avait étourdi dans sa chute le soldat de faction, étranglé avant d'avoir pu pousser un cri, et sous le couvert de la capote de l'uniforme français, il avait pu s'évader. On avait trouvé 2 lignes gravées en grandes lettres dans le plâtre de la muraille de sa cellule. « Ô sous-officier de cavalerie qui m'a fait arrêter et qui a failli me faire exécuter, à charge de revanche, Mathias Zuberi. » Mais Mathias Zuberi et Louversant, c'était le même homme. Madame de Noirville, prévenue par un valet de chambre, entra au salon où l'attendait l'aventurier. « C'est à moi, monsieur, que vous voulez parler ?»«
Oui, madame. »
« Je vous écoute, » dit-elle un peu anxieuse, car cet homme l'effrayait vaguement, sans qu'elle pût deviner pourquoi. Il se recueillit un instant, puis, d'une voix brève et rude, où il y avait de tous les accents, il se mit à lui dire ce qu'il était d'abord et ce qu'il rêvait ensuite. Ce qu'il était, ce qu'il avait été, peu importait, disait-il à Madame de Noirville. Ce qu'il était intéressant de savoir pour elle, c'est qu'un jour au magasin du Louvre, il avait surpris le secret de ses amours avec Roger et de cet emprunt qu'elle avait fait pour échapper au scandale d'un procès avec son mari. Et ce qu'il rêvait, la vengeance. Il voulait se venger de Roger. Peu importait encore à Madame de Noirville de savoir d'où venait sa haine et comment était né son désir de vengeance. Mais pourquoi il lui disait tout cela? Parce qu'il avait surpris le dénouement de la liaison de Julia avec Laroque et deviné que Julia elle-même haïssait cet homme. Comment se vengerait-il? C'était son secret. La vengeance serait complète et irrémédiable. Effarée, Julia l'écoutait. Tout en cet homme respirait la haine. Et elle tremblait d'être ainsi à la merci d'un inconnu. Elle voulut nier d'abord, mais il partageait le secret de son amour. Il était entré dans le mystère de son cœur. Il fallut courber la tête. « Eh bien, dit-elle, soit, vous voulez vous venger, moi aussi. » Mais auparavant, je ferai ma dernière tentative de réconciliation. Je vous demande quelques jours. Attendrez-vous ? Il s'inclina, acceptant ce délai. Le lendemain, Julia vit Laroque, rue de Rome. Roger, dit-elle, vous êtes impitoyable. Je vous aime toujours. Il passa devant elle sans répondre et entra chez Lucien. Quand il sortit, il la trouva qui guettait son départ. « Roger, une dernière fois, si vous m'y forcez, je vous haïrai, vous aurez tout à craindre de ma haine. » Roger, attristé, arrêta son regard sur la chambre de Lucien et se retira sans avoir prononcé une parole. 8 jours après, Mathias Zuberi se présentait rue de Rome. « Je vous donne carte blanche, » dit Julia, dont le regard flamboyant fit baisser les yeux au misérable. « Vengez-vous et vengez-moi. » Il sourit, salua et sortit. Il était en relation d'affaires avec la Rouette, qui jouait à la bourse, et il connaissait l'héritage de Vaubernon. Ce fut sur ses conseils perfides que la Rouette réclama à la Roque les 130 000 francs de son oncle. Ce fut sur ses conseils que la Rouette résista aux supplications de Roger, qui demandait avec instance des délais pour payer. Le soir même du jour où la Rouette était en possession de la somme remboursée par le constructeur, où il escomptait avec un plaisir d'avare ses billets qui gonflaient son portefeuille, ses rouleaux d'or qui emplissaient ses poches, Mathias Zuberi entrait chez lui pour le voler. Zuberi n'ignorait pas qu'il ressemblait à la Roque, ou du moins, si le jour une erreur était impossible, il savait que la nuit, il était facile de s'y tromper, et il avait exploité cette ressemblance. Il était venu à Ville d'Avray pour voler, non pour assassiner. Il avait compté profiter du sommeil de la Rouette, qu'il était venu voir une fois afin de se renseigner sur le logis, pour le dépouiller sans être vu. Il ne s'était pas attendu à la résistance du malheureux. Alors, fou de peur, il le tua, pour ne pas être accusé, parce que la Rouette l'avait reconnu.